Nous continuons notre série de messages qui s'intitule « Ma nouvelle identité ». Notre but est de comprendre qui nous sommes en Christ, afin de vivre des libérations et de grandir en maturité. Depuis le début de la série de messages, nous avons vu que nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Et cela, c'est ce qui importe. Puisque nous avons une nouvelle nature, nous devons laisser le Saint-Esprit nous diriger. Nous devons aussi changer nos mauvaises croyances en bonnes croyances. Et nous devons enfin gagner la bataille de nos pensées. Ce matin, nous allons voir comment nous pouvons gagner la bataille de nos pensées. Mais avant de donner quelques clés, j'aimerais vous parler de l'impact de nos pensées sur nous-mêmes. William a dit ce qui suit et qui est devenu très célèbre. Sème une pensée et tu moissonneras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. Le texte est très clair. Tout commence par la pensée. Voici ce que la Bible affirme sur nos pensées. Premièrement, nos pensées déterminent nos actions. Ce point ressemble à celui de la semaine dernière, puisque en fait, par rapport aux croyances, on arrive sur le même point. Et dimanche dernier, j'avais aussi rappelé ce proverbe 23 qui dit ceci, « Il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. » La Bible affirme que nous sommes comme ce que nous pensons. Nos pensées déterminent nos actions. Deuxièmement, notre vie dépend de nos pensées. Proverbe 4, verset 23 est très clair. « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Et j'aime la traduction de la Nouvelle Bible en français courant. Elle sort du four, hein, cette Bible, donc je suis tout content de la voir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, comment ? Il y en a une à la librairie. Donc pour ceux qui veulent, voici comment ils l'ont traduit. « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Très clair. Hein ? Troisièmement, les mauvaises pensées mènent à des actes honteux. Dans son livre « Laissez-vous transformer », Alfred Kuhn pose ces questions. Pourquoi le nombre des divorces a-t-il augmenté dans des proportions inquiétantes dans les milieux évangéliques? Pourquoi des jeunes et des veufs de nos églises vivent-ils en concubinage sans y voir du mal? La suite, pourquoi tant de violence dans notre société? Pourquoi la poursuite de la richesse est-elle considérée comme le bien suprême en Occident? Pourquoi la multiplication des vols, des affaires de corruption et de scandales sexuels? Voici la réponse. Jésus a donné la réponse à toutes ces questions. C'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, aux calomnies, aux blasphèmes ou injures, selon Matthieu chapitre 15. Tellement de personnes veulent changer, va arriver à changer leur comportement sans changer avant tout leur pensée. Mais c'est super important de comprendre ce matin, et nous devons être convaincus de cela, tout commence par la pensée avant de devenir des actes. Tout changement, donc, commence par nos pensées. Alfred Kuhn poursuit dans ce livre, il dit plus loin, « Je pense, donc je suis ». Une parole aussi très connue de Descartes. Et je suis aussi longtemps que je peux penser. Je suis et je deviens ce que je pense. Ma pensée commande ma parole, ma volonté et dans une certaine mesure mes sentiments et mes actes. Ce matin, nous devons reconnaître que nous menons tous un combat dans nos pensées. À cause du péché, notre tendance est de ne pas utiliser nos pensées comme Dieu le veut. Notre tendance est de vivre indépendamment de Dieu de faire ce qui nous plaît, de vivre pour nous-mêmes, nos intérêts. L'orgueil et l'égoïsme nous collent à la peau. Comme personne ne voit dans nos pensées, excepté Dieu, bien sûr, nous les utilisons très facilement pour fantasmer, convoiter, jalouser, désirer des choses honteuses, insulter, haïr. Nous faisons beaucoup de choses dans nos pensées que nous ne ferions pas au grand jour. Serions-nous prêts aujourd'hui, dans l'Église, à ce que quelqu'un projette toutes nos pensées ici, là, nos pensées de la semaine? Non. Non. Nous croyons, nous vivons tous un combat intérieur. Pierre le dit très bien dans sa lettre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Et écoutez la suite. Ils font la guerre à l'âme. Ils font la guerre à l'âme. Donc là, il fixe là son attention sur les désirs de l'homme livré à lui-même. Dans le cœur de tout croyant, il y a une guerre incessante. Il y a trois choses qui feront la guerre toute notre vie. Ce sont les influences de notre ancienne nature, c'est ce que Pierre nous a dit, donc ces désirs de l'homme livré à lui-même. Mais il y a deux autres choses. Il y a aussi la manière de penser du monde. Et troisièmement, le diable lui-même. Parlons de l'ancienne nature. L'ancienne nature, c'est ce que nous étions avant de connaître Jésus-Christ. Quand nous avons demandé pardon à Dieu pour nos fautes et placé notre foi en Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu est venu en nous et nous avons reçu une nouvelle. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous avons reçu une nouvelle nature. La nouvelle nature nous permet de vivre dans la communion avec Dieu, dans la sainteté et l'amour. Et on pourrait dire encore beaucoup de choses là-dessus. Mais nous avons encore notre ancienne nature qui nous pousse à vivre indépendamment de Dieu, à pécher et à faire notre propre volonté. Cette ancienne nature n'est pas du tout centrée sur Dieu. Donc là, non, j'aime une image que j'ai en tête. Quelqu'un le disait plus clairement, mais c'est une personne qui essaie de noyer une autre personne, mais c'est son ancienne nature. Elle est en train de dire, elle est tellement vivante que elle, même en essayant de la noyer, elle a envie de se manifester. C'est un vrai combat. Et je me rappelle d'un chanteur qui avait carrément, on avait, c'est Kirk Franklin qui avait fait un album et on le voyait sur le ring, on voyait Kirk d'un côté et Kirk de l'autre. Et ils étaient là avec des gants de boxe pour les deux natures qui se faisaient front. Ce n'est pas exactement ce que la Bible dit, mais c'était assez marrant de voir cette image. L'ancienne nature veut reprendre sa place sur la nouvelle. Parlons de l'influence de la manière de penser du monde. Tout n'est pas mauvais dans le monde, n'est-ce pas? Il y a de bonnes choses, mais sa manière de penser éloigne de Dieu. Prend plaisir au péché, prend plaisir au mensonge, à la tricherie, etc. La manière de penser du monde rejette Dieu. Sa morale, son éthique, sa bioéthique, sa philosophie, ses valeurs et ses buts sont bien loin de ce que la Bible enseigne. Voici l'idée force de notre temps. L'homme est au centre de l'univers, dans le sens Dieu. C'est bien ce que tu nous écris, mais reste là où tu es. Ou pour d'autres, il n'y a pas de Dieu. L'homme est au centre de l'univers. Il fait tout pour tout maîtriser. Ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est moi, mon bien-être, ma santé, mon plaisir. Ce qui n'est pas biblique. Parlons de l'influence du diable. Le diable, c'est le premier et le plus puissant de tous les esprits déchus, le principal adversaire de Dieu et de l'homme, l'accusateur des croyants. Il est le tentateur qui pousse les hommes à pécher. Je répète, il est le tentateur qui pousse les hommes à pécher, plus précisément les chrétiens à pécher. L'ennemi, le prince de ce monde, le dieu de ce siècle. Les influences qui ne nous aident pas à vivre comme Dieu veut sont notre ancienne nature, la manière de penser du monde et le diable. Nous vivons une guerre intérieure, mais je veux affirmer avec force ce matin que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Donc, dans le combat que tu peux mener dans tes pensées, ne pense pas que c'est fini pour moi, je suis chrétien, j'ai des mauvaises pensées, j'arriverai jamais à m'en sortir. Non. Tu as le Saint-Esprit en toi, la victoire est en Jésus-Christ. Alors, comment gagner la bataille dans nos pensées ? Alors, je vais aller sur un texte qui est assez surprenant. Je vais prendre avec vous Romains 12, juste les versets 1 à 2. Le contexte, enfin, ce que Paul voulait dire ici, dans ce texte, c'est qu'il parle d'adoration, l'adoration véritable, ce qui plaît à Dieu. Mais dans ce texte, il y a des clés tellement importantes pour avoir de bonnes pensées. On pourrait donner plein de choses sur comment gagner la bataille de nos pensées. Il faudrait avoir de bonnes pensées, il faudrait ceci, cela, etc. Et faire toute une liste. Mais nos pensées, elles ont été créées pour Dieu. Et elles doivent être centrées sur Dieu. Notre guérison, notre délivrance, le fait de gagner la bataille de nos pensées commencera toujours quand nous commencerons à mettre Dieu au centre de nos pensées. Et donc, le texte est tellement, nous y amène tellement et prêche tellement l'évangile que je suis obligé de vous amener dans Romains 12. Un beau texte, très connu. C'est parti. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Que Dieu nous aide à comprendre cette parole. Ce texte nous donne plusieurs clés pour gagner la bataille dans nos pensées. Je vais en donner 5. Premièrement, jouissons de l'immense amour de Dieu. Le texte dit ceci. Je vous exhorte, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu. Paul parle ici de l'immense bonté de Dieu. Il est impressionnant de constater que Paul, pendant 11 chapitres, présente l'immense bonté de Dieu pour nous. Il parle de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour sauver l'humanité. Il dit qu'en Jésus-Christ, l'immense amour de Dieu nous apporte le pardon, l'expiation, la délivrance de nos péchés, la vie éternelle, la foi, la paix, l'espérance, la réconciliation avec lui pour l'éternité, le Saint-Esprit qui habite en nous, qui intercède pour nous et par qui l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Il nous rend juste devant lui et nous transforme jour après jour à l'image de Jésus-Christ. Un jour, nous serons totalement transformés, saints, parfaits et débordants d'amour pour Dieu et pour les autres, comme Jésus-Christ. Et nous aurons de nouveaux corps ressuscités afin de pouvoir le servir dans son royaume éternel. J'essaie de résumer les 11 chapitres. Fait beaucoup, hein ? Paul finit, après avoir dit un peu tout ce que j'ai dit là, il finit en explosant en louanges. Et voici les mots qu'il nous laisse. Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour ? En effet, tout vient de lui, tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. S'il y a bien quelque chose qui doit sans cesse agir dans nos pensées et dans notre vie, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'immense amour de Dieu pour toi, pour moi. Jouissons sans cesse de l'amour de Dieu. Rappelons-nous sans cesse l'immense amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Plus nous nous rappelons l'amour de Dieu pour nous, plus son amour grandira. En nous. Nous aurons plus d'amour pour lui. Plus nous aimerons Dieu de toute notre pensée. Vous vous rappelez ce fameux commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La pensée y est, les amis. Toute ta pensée. Pas aimer Dieu avec ma pensée, mais de toute ta pensée. Les amis, plus nous aimerons Dieu de toute notre pensée, plus nos pensées auront Dieu pour priorité. C'est comme une personne amoureuse, n'est-ce pas? Ses pensées sont captivées par l'être aimé. Soyons captivés par Dieu, captivés par son amour, sa grâce, sa bonté. Deuxièmement, pour gagner la bataille de nos pensées, répondons à l'amour de Dieu en nous donnant entièrement à lui. Notre cher Paul continue en disant ceci. Donc je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté, à lui offrir votre corps. Comment ? Comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu, ce qui sera de votre part un culte spirituel. Dans ce texte, Paul invite ses lecteurs à répondre à l'amour de Dieu en s'offrant eux-mêmes totalement à Dieu. Alors, ça devait être bizarre pour les croyants de l'époque, à l'époque de Paul, de lire qu'il fallait offrir notre corps comme un sacrifice vivant. En ce temps-là, les Juifs avaient l'habitude de donner des animaux en sacrifice pour le pardon des péchés ou pour l'adoration. Mais comme le sacrifice parfait de Jésus-Christ avait déjà été fait, Dieu n'attendait plus de son peuple des sacrifices d'animaux. C'était fini. Le sacrifice parfait de Jésus-Christ est fait. Pour le pardon des péchés, plus besoin. Il devait faire confiance dans le sacrifice de Christ, se détourner de leurs péchés, se tourner vers Dieu, et puis lui demander sincèrement pardon. Pour l'adoration, plus de sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ a été fait. Il devait s'offrir tout simplement entièrement à Dieu. Dieu s'est donné entièrement pour nous en Jésus-Christ. Et la logique, c'est que nous devons nous donner entièrement à Dieu, à lui. Si on se donne à Dieu, ce n'est pas pour gagner sa faveur, son amour, son pardon, le paradis, ses bénédictions, parce que c'est impossible. Personne au monde ne peut atteindre la sainteté de Dieu. Personne ne peut prétendre ici et partout dans le monde, dire grâce à mes œuvres, à tout ce que j'ai fait, Dieu normalement, il va me sourire, il va m'aimer, il va me bénir, je vais avoir une Lamborghini. Non. Si nous nous donnons à Dieu, c'est parce que justement, Jésus-Christ a tout accompli. Sa faveur, son amour, son pardon, le paradis, ses bénédictions, tout cela, on ne peut pas les gagner, mais ont été gagnés par Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et donc, le don de nous-mêmes peut se résumer en un mot, reconnaissance. Paul nous a projeté tout à l'heure cette image de Jésus-Christ mort à la croix. C'est ce sacrifice qui doit nous pousser à la reconnaissance. C'est là, que c'est par ce sacrifice que j'ai tout reçu. Et donc, je ne peux pas ne pas exprimer ma reconnaissance. Si nous veillons à ce que notre cœur et nos pensées soient toujours captivés par l'immense amour de Dieu, c'était notre premier point, nous chercherons sans cesse à faire plaisir à Dieu. Deuxième point. Ce qui fait le plus plaisir à Dieu, c'est que nous nous donnions entièrement à lui en répondant à son amour et à sa grâce. Je répète, ce qui fait le plus plaisir à Dieu, c'est que nous nous donnions entièrement à lui en répondant à son amour et à sa grâce. Si moi je disais, ce qui fait le plus plaisir à Dieu, c'est que nous nous donnions entièrement à lui, point, il y a un problème. Parce qu'il y a des gens qui pensent se donner entièrement à Dieu, mais qui ne répondent pas. Ce n'est pas des réponses à la grâce, mais plutôt pour gagner la faveur de Dieu. C'est super important. Nous nous donnons entièrement à Dieu, parce que nous répondons à son amour et à sa grâce. Troisièmement, rejetons immédiatement toutes nos mauvaises pensées. Le texte le disait différemment, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, la manière de penser du monde. Quelqu'un m'avait rapporté cette parole du pasteur Rick Warren. Il dit ceci, assez choquant, je sais, « Il ne faut pas résister à une tentation. » On s'arrête là, je dis, qu'est-ce qu'il veut dire qu'il y a un problème? Il est pasteur ou il ne l'est pas? Mais il faut changer d'activité. Intéressant. Vous savez pourquoi Rick Warren a osé dire un truc pareil? Parce que plus nous cherchons à résister à une tentation, plus nous y penserons. Et plus ça va être difficile la lutte, parce que nos pensées vont toujours se diriger vers la tentation. Et on va être encore plus tenté. Et... Le mieux est de rejeter immédiatement la mauvaise pensée, mais aussi de changer d'activité pour penser à autre chose. Et on parle ici de remplacer une pensée par une autre pensée. Quand l'apôtre Paul a parlé à Timothée, il ne lui a pas dit « résiste aux tentations », il a dit « fuis les passions de la jeunesse, de ta jeunesse ». Il parlait de fuite. Et on sait que le mot « fuir », on a juste l'image d'une maison en feu. Si une maison est en feu, on sait que là, on va fuir, n'est-ce pas? Cela me fait penser à une période de ma vie. J'étais jeune croyant. Toutes les fois où je prenais le repas du Seigneur, le pain et le vin, j'avais des mauvaises pensées. Il y avait des images mauvaises qui me traversaient l'esprit. J'ai beaucoup, beaucoup lutté contre elles pour qu'elles me laissent tranquille. J'avais souvent de la culpabilité et j'avais du mal à prendre le repas du Seigneur dans la paix, dans la joie. Enfin, ce n'était pas un moment joyeux, quoi. Je ne me sentais pas bien vis-à-vis de Dieu. Le pain et le vin étaient distribués, puis ces pensées étaient là constamment. Et puis, un jour, Dieu m'a fait comprendre que les pensées que j'avais venaient du diable et que je ne devais plus m'attarder sur elles et me culpabiliser. Le jour où j'ai repris le repas du Seigneur, ces mauvaises pensées sont revenues. Alors, moi, sachant que c'était le diable qui m'attaquait, j'étais plus tranquille. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là et on avait entendu le séminaire d'Emmanuel Manline, il disait « Ah, mais c'est que toi ». Je me rappelais, c'est qui avait dit ça, vous vous rappelez? Luther, voilà, qui disait, il me semble que c'était Luther, s'était réveillé et puis il s'était rendu compte, ah mais c'est que Satan qui vient m'embêter, ah mais c'est que toi, et puis il s'endort pour dire, c'est Satan, mais je n'ai pas peur, je suis enfant de Dieu, je sais qui je suis en Christ. Et donc, voilà, moi j'étais là face à cette pensée et j'étais tranquille parce que je me dis, ben, c'est le diable qui veut m'attaquer, je ne m'attarde pas là-dessus. Et donc j'ai arrêté de me fixer sur ces pensées qui m'embêtaient et j'ai tout simplement vécu à fond le repas du Seigneur dans la présence de Dieu. Donc, remplacement de pensée, je vis à fond ce temps que je passe dans la présence de Dieu. J'ai prié et je passais ce temps dans la présence de Dieu. Depuis ce jour, je n'ai plus eu ce problème parce que le diable avait été démasqué, cela ne me déstabilisait plus et j'avais appris à ne plus m'attarder sur mes mauvaises pensées. Pour gagner la bataille de nos pensées, nous devons apprendre à rejeter immédiatement toute mauvaise pensée qui nous tente. Je dis bien immédiatement, tout de suite, sans attendre. Pourquoi? Parce que si nous ne rejetons pas une mauvaise pensée immédiatement, nous commençons à la considérer comme une option possible et nous augmentons les probabilités d'y céder. Voici ce que Neil Anderson, le pasteur Neil Anderson, a dit à ce sujet. Le moyen d'échapper à la tentation se situe au seuil de celle-ci, au moment même où nous y pensons. Si nous ne maîtrisons pas la tentation au seuil de nos pensées en la rejetant, nous risquons de permettre à la tentation de nous maîtriser. Les amis, rejetons immédiatement nos pensées, les mauvaises pensées non conformes à la parole de Dieu. Sinon, elles se transformeront en actes. Quatrièmement, renouvelons nos pensées. Et donc le texte nous dit ceci, Paul nous avait dit ça, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Le renouvellement de la pensée, est indispensable pour gagner la bataille de nos pensées. Quand je rejette une pensée, je dois la remplacer par une autre. Vous savez, ce qui entre régulièrement par la porte de nos pensées finit par occuper toute la place pour nous contrôler de l'intérieur et par nous pousser à agir. Et j'aime dire cela, c'est la loi de l'influence, aussi fatale que la loi de la gravité, n'est-ce pas ? Nos pensées abordent les influences auxquelles nous les avons soumises au point d'en devenir le reflet fidèle. Les événements auxquels nous assistons, les ouvrages que nous lisons ou que nous évitons de lire, la musique que nous écoutons, les images que nous regardons, les conversations que nous entretenons, les pensées dont nous nous délectons sont tous en train de modeler d'abord nos pensées, puis peu à peu jusqu'à notre caractère et notre destinée. Voilà donc un sujet important. Selon l'apôtre Paul, une chose doit dominer nos pensées pour nous changer et nous transformer. C'est la parole de Dieu. Nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu. Et bien sûr, quand nous lisons, nous méditons la parole de Dieu, il y a une action du Saint-Esprit. J'aime ce que John MacArthur dit à ce sujet, un écrivain et pasteur. Il dit ceci: la parole même de Dieu est l'instrument dont son Saint-Esprit se sert pour renouveler notre intelligence, dont il se sert en retour pour transformer notre mode de vie. Merci John. Le texte donne ce mot. Le texte de l'apôtre Paul, transformation. Laissez-vous transformer. Il y a notre action qui est de lire, méditer, mettre en pratique la parole de Dieu. Il y a l'action de Dieu qui est de nous transformer. Le sachant, nous devons être habités de cette conviction, je l'ai dit tout à l'heure, que nous pouvons changer nos pensées. La victoire est possible par Jésus-Christ. Nous pouvons avoir de plus en plus les pensées de Dieu en nous. C'est possible par la puissance de Dieu à l'œuvre en nous. À nous d'y croire et de demander sans cesse à Dieu: transforme-moi au travers de ta parole, transforme-moi par le renouvellement de mes pensées, que je puisse penser tes pensées. Un autre texte nous invite à nourrir nos pensées de bonnes choses. Pour ceux qui sont très inquiets ce matin, Philippiens 4:6 nous dit de ne pas être en souci, de ne pas nous inquiéter, etc. Il nous dit de prier, d'être dans la louange. Et plus loin, il dit ceci: nourrissez vos pensées. J'aime ce terme, nourrissez. Ça veut dire qu'on les, de manière générale, enfin tout le temps en fait, nous nourrissons nos pensées. Qu'est-ce que nous regardons le plus? Qu'est-ce que nous lisons le plus? Là où nous nourrissons le plus nos pensées, c'est vers ça que nos actions iront, n'est-ce pas? Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Et pour arriver à avoir tout ça, ça ne peut que être la parole de Dieu, les amis. Il y a bien d'autres choses aussi, de bonnes choses, hein, dans la vie. Donc là, quand l'apôtre Paul disait ça, il ne se concentrait pas que sur la parole de Dieu. Je pense que c'est très large, mais la parole de Dieu est ce qui nous permet de nourrir au point d'en être transformé. Cinquième et dernier point, recherchons sans cesse la volonté de Dieu. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Nous méditons la parole de Dieu dans le but de comprendre sa volonté, ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui conduit à une réelle maturité. La transformation que Dieu veut faire n'est pas juste que nous sachions ce qu'il veut, mais surtout que nous désirions lui plaire. Ça va beaucoup plus loin. Quelqu'un disait quelque chose de fort dans sa prière qui m'a toujours marqué. Il a dit ceci: Dieu, aide-moi à aimer ce que tu aimes et à détester ce que tu détestes. On sait très bien ce que Dieu aime, tout ce qui est pur, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce que Dieu déteste, l'injustice, la haine, le péché, le mal, etc. etc. Et quand cette personne priait cette prière, je pense qu'il avait vraiment en tête toutes ces tentations, tous les combats. Et il voulait aller au-delà de ce que je dois faire. Je veux désirer, comme avoir tes désirs en moi. Demandons cela, c'est tellement important. Demander cela va bien plus loin que juste savoir ce que Dieu veut pour faire sa volonté. Dieu veut nous changer au plus profond de notre cœur pour que nous puissions désirer de tout notre cœur faire sa volonté, ce qui lui plaît, ce qui est bon à ses yeux et qui nous conduit à maturité. Cela n'est pas sans combat. On se rappelle cette prière de Jésus. Il demandait à ce que la coupe s'éloigne de lui, coupe de souffrance. Et en même temps, il veut faire la volonté de son Père. Vous voyez ? Et dans cette prière incessante, forte, intense, où carrément il y a des grumeaux de sang qui tombent, à la fin, on le voit, je ne sais pas si vous rappelez, mais les textes nous rapportent un Jésus qui d'un coup change, il se lève et il accepte pleinement la volonté de Dieu. Il dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et je ne pense pas que quand il a dit ça, c'était juste « Bon, on va faire ce qu'il faut vraiment faire. » Je pense que Jésus a vraiment désiré cela. Et la Bible dit qu'il regardait la joie qui lui était réservée. Je crois qu'on trouve ça dans Hébreu. Il regardait la joie qui lui était réservée. C'est-à-dire qu'il regardait après la croix. Parce que Jésus te regardait toi. Il voulait plaire à son Père, mais il te regardait toi. Et il voulait te sauver. Il voulait me sauver. Et c'est ça la joie qu'il fixait. La volonté de Dieu, elle doit être désirée. Parfois, ça va être un combat en nous. Mais nous devons chercher avoir les désirs de Dieu en nous. Habituons-nous à prier cette prière. Dieu mon Père, rends-moi plus semblable à Jésus-Christ, que j'aime ce que tu aimes et que je déteste ce que tu détestes pour être comme toi. En quelques mots, désirer les désirs de Dieu, avoir ses désirs en nous. Veillons sur notre cœur et sur nos pensées pour qu'ils soient remplis du désir de connaître Dieu dans l'intimité, de trouver toute notre joie en lui et de lui plaire dans tous les domaines de notre vie. Je vais conclure en rappelant tout ce que nous avons vu. Comment gagner la bataille de nos pensées ? Jouissons de l'immense amour de Dieu. Répondons à l'amour de Dieu en nous donnant entièrement à lui. Rejetons immédiatement toutes nos mauvaises pensées. Renouvelons nos pensées par la parole de Dieu, qui va nous transformer, aussi par l'action du Saint-Esprit, et recherchons sans cesse la volonté de Dieu. Je vais prier. Dieu notre Père, nous sommes dans une guerre incessante. Aide-nous à ne pas nous laisser influencer par notre ancienne nature, par la manière de penser du monde qui te rejette sans cesse, et par les attaques du diable qui veut nous éloigner de toi. Protège-nous. Protège-nous de toute attaque de l'ennemi. Protège nos pensées. Aide-nous à jouir jour après jour de ton amour immense. Que nos cœurs soient toujours plus émerveillés par Jésus-Christ mort et ressuscité. Donne-nous de répondre à ton amour en nous donnant entièrement à toi. Apprends-nous à rejeter immédiatement toute mauvaise pensée et à les remplacer par ta parole. Transforme-nous au travers de ta parole, transforme-nous par le renouvellement de nos pensées, que nous puissions penser tes pensées. Donne-nous enfin de rechercher sans cesse ta volonté, que nos désirs changent pour vraiment te désirer de tout notre cœur, désirer tout de toi, désirer faire ta volonté dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, tu connais nos vies. Et tu sais, dans notre quotidien, comment nous alimentons, comment nous nourrissons nos pensées. S'il y a des dépendances par rapport à des films, par rapport à des choses que nous regardons, des choses que nous écoutons, et nous savons et que nous commençons à avoir la conviction ce matin que ça ne va pas à ce niveau, que tu nous aides à changer. Père, que nous sachions vraiment nourrir nos pensées de bonnes choses. Faire le tri, nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.